Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, ma mission, vous la connaissez, vous faire découvrir des Français et des Françaises qui innovent, qui créent, qui ont des idées et qui les mettent en œuvre dans les villes, les entreprises, les associations. C'est la journée européenne de la mer aujourd'hui. Alors, on a décidé de s'intéresser à ces richesses, des richesses qui, vous allez le voir, peuvent changer notre vie au quotidien. Elle existe depuis 1973 et est devenue en 30 ans le grand spécialiste de la découpe dans le monde. Lectra est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, donnez vos vêtements à laver, mais en ayant choisi un pressing écolo. Oui, c'est possible. La solution d'aujourd'hui s'appelle les ratons laveurs. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, Anissa, venez donc découvrir avec nous les richesses de la mer.
Oui, venez nous en parler. Peut-être que vous aussi, vous avez des idées. Vous pouvez également poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. Et bien sûr, les réactions sont à lire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et le 39-21, c'est le standard 50 centimes la minute, Raphaël.
C'est la journée européenne de la mer. Et vous allez voir qu'il y a moyen d'utiliser ces richesses, de les exploiter durablement et de créer grâce à elles des innovations. Pour accueillir nos invités aujourd'hui à mes côtés comme chaque jour, elle est là, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach fondateur de Reporters d'Espoir et de la France des Solutions, c'est Gilles Vanderpotten aujourd'hui.
Bonjour Raphaël.
Parmi les ressources de la mer qui peuvent être utilisées, il y a les algues. Et demain, c'est peut-être elles, vous allez voir, qui vous fourniront le carburant qui fera démarrer votre voiture. Je simplifie, mais vous allez tout comprendre. Bonjour Jérémy Dutheil.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Neomeris et vous développez un projet qui s'appelle Codema. Vous avez fait au départ une école d'ingénieurs en chimie du pétrole, mais très vite, vous vous êtes dit, le pétrole, c'est pas l'avenir.
Non, pas vraiment.
Donc, vous changez un petit peu et vous vous dirigez vers la chimie verte.
Exactement.
Alors, comment est-ce que vous commencez à vous intéresser aux algues ?
Alors, parce que les algues, en fait, ça fait partie des végétaux. Donc, le meilleur moyen de produire des molécules aujourd'hui, c'est d'aller vers la photosynthèse. Les plantes, les algues. Et les algues, c'est les plantes qui poussent le plus vite. Elles se dédoublent toutes les 10 heures, en fait. Donc, si on a besoin de produire beaucoup de molécules pour faire de l'alternative au pétrole, c'est vers là qu'il faut aller.
Et alors, vous vous dites, les algues, ça se développe vite, on peut peut-être en faire quelque chose. Comment est-ce que vous commencez à les étudier de près ?
Alors, après mon ingénieurat, en fait, j'ai fait un doctorat en biologie, justement, pour approfondir mes connaissances sur ce sujet. Mm-hmm. J'ai travaillé sur un projet de biocarburant à partir de microalgues aussi. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre l'ampleur de la problématique. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de remplacer 5 milliards de tonnes de pétrole extrait chaque année avec une ressource qui vient du végétal.
Vous dites microalgues, ce ne sont pas les algues qu'on voit quand on met le masque et qu'on
non,
plonge.
Non, pas du tout. C'est plutôt celles qui rendent la piscine vert, jaunasse. C'est plutôt celles-là, les microalgues.
Alors, en 2012, vous gagnez un prix, je crois, le premier prix dans un concours intitulé « Qu'est-ce que vous aurez fait en 2050 pour sauver la planète ?» Et
exactement.
Vous dites « Moi, j'aurais créé une centrale osmo-végétale, c'est ça ?»
C'est ça.
Pour faire de l'électricité et des carburants grâce à la sève des arbres et des algues. Parce que c'est cette sève-là qu'on va aller extraire.
Tout à fait. Mais comme
pourquoi
je vous dis, parce
quelle est la propriété de cette sève ?
Voilà. Ben en fait, si vous voulez faire pousser une plante chez vous, vous avez besoin de lui donner de l'engrais. Il n'y a pas de miracle, en fait. La masse, elle ne vient pas de nulle part. Il n'y a pas d'alchimie. Vous avez besoin d'avoir les atomes initiaux pour pouvoir faire quelque chose. Donc, si vous voulez faire 5 milliards de tonnes de carburant, il vous faut 5 milliards de tonnes d'algues et donc 5 milliards de tonnes d'engrais, de choses à transformer en algues. Donc, il y en a une grande partie, c'est le CO2 qui est dans l'air. Donc, ça nous arrange. C'est celui-là qu'on voudrait enlever. Mais il y a aussi toute une source d'azote, de phosphore, etc. Et ça, on va aller le récupérer dans la sève des arbres. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on est dépendant des ressources fossiles. Aujourd'hui, avoir de l'azote, avoir du phosphore, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais toute notre alimentation, ça vient de l'azote qui vient de la chimie. Donc le jour où il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'engrais, il n'y a plus de nourriture. Donc on ne peut pas se baser sur ça. Alors aller chercher l'azote et le phosphore qui est dans les forêts, là c'est pertinent. Voilà, là ça se fait, c'est de la manière, c'est durable en fait.
Et alors qu'est-ce que vous allez en faire de ces microalgues ? Vous les broyez ?
C'est ça, alors il y a beaucoup d'étapes. Ça fait longtemps qu'on parle des microalgues. L'idée c'est que c'est facile d'aller récupérer des lipides dans n'importe quoi qui vit.
Donc, vous dites
des lipides,
ça c'est important.
Les
Exactement. Parce qu'on va aller chercher le gras dans la plante. Hein.
Exactement. C'est le gras de la plante qu'on va pouvoir transformer en carburant derrière. Le souci, c'est que ça, on sait le faire depuis longtemps, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas le faire pas cher. Voilà. Aujourd'hui, ça coûte à peu près 15 euros le litre de faire du carburant à base d'algues. Donc, le gros souci, c'était de trouver une alternative à ça. Comment est-ce que je fais pour baisser le prix le plus possible ? Et donc, c'est sur ça qu'on travaille depuis 5 ans dans Néomeris maintenant. Donc on est un laboratoire qui abaisse les coûts de transformation des algues en carburant.
Vous êtes pour l'instant toujours un laboratoire de recherche. Oui. Bientôt une entreprise, une start-up.
Alors on est déjà une entreprise depuis 5 ans.
Avec votre père sur ce projet. Mais vous préférez qu'on dise laboratoire de recherche parce que le produit n'est pas encore disponible ?
C'est ça. Produire 5 milliards de tonnes, on ne va pas le faire dans un petit labo à 4. Il faut bien une usine énorme. Donc le plus gros verrou aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, c'est abaisser les coûts. Donc mettre au point la technologie.
Que dit notre coach ?
L'énergie, le dispositif n'est pas encore réel, mais vous promettez tout de même de réduire le coût de production des carburants de 70%. Alors quelle est la recette magique ?
La recette magique, c'est l'innovation biologique en fait. Aujourd'hui, pourquoi c'est cher ? C'est cher parce qu'on a besoin de machines qui font de la mécanique pour récolter les algues, après pour les broyer, etc. Donc c'est beaucoup d'investissements matériels lourds, c'est long à mettre en œuvre et ça ne marche pas très bien. Nous, ce qu'on fait, c'est on fait de l'innovation biologique dans l'algue. Donc on va aller fragiliser les algues, les rendre plus faciles à exploiter, plus faciles à traiter pour ne plus avoir à faire ces investissements matériels. Donc le but du jeu, c'est que l'algue se transforme d'elle-même en carburant.
Et ça veut dire qu'à la pompe, le prix pourrait être de 70% inférieur au carburant actuel.
On espère même moins que ça. Alors, au carburant actuel d'algues. Voilà, donc d'accord, on voudrait croiser le prix du pétrole. Voilà.
Alors, attendez, on dit carburant. Qu'est-ce que c'est, ce carburant issu de ces micro-algues que vous cultivez? Est-ce que c'est du diesel? Est-ce que c'est de l'essence? Est-ce que c'est du biodiesel?
Justement, ça, c'est un sujet un peu sensible. Ce qu'on fait, c'est une alternative au gasoil. On fait un biogasoil qui marchera dans des moteurs diesel. Donc, actuellement,
j'entends déjà des gens dire « Oh là là, le gasoil, et c'est polluant !»
Sais bien. Donc, le souci, c'est qu'en fait, l'avenir, on aura besoin de produire des alternatives, des carburants embarquables pour les véhicules. C'est sûr, l'électricité, c'est pas une solution d'avenir pour plein d'autres raisons. Il n'y aura pas assez de matériaux pour fabriquer des moteurs électriques, en fait. Donc, dans les carburants renouvelables, il y a soit le bioéthanol, qui est une alternative à l'essence, soit le biogasoil, qui est une alternative au gasoil. Le souci, c'est que quand on regarde vraiment les chiffres, on ne pourra jamais produire suffisamment de bioéthanol pour tous les véhicules de l'avenir. Là où il y a le plus de potentiel, c'est dans le biogasoil, dans les huiles.
Vous êtes en train de lever des fonds en ce moment ?
Oui, c'est ça qu'on est en train de faire. Oui.
Et vous vous dites qu'à terme, vous allez pouvoir vous développer. C'est à ça que ces fonds vont servir, créer de l'emploi, véritablement mettre sur le marché ce produit-là.
C'est ça. Donc là, aujourd'hui, nous, on est 4 chercheurs dans l'entreprise. On voudrait passer le plus rapidement possible
d'ici la
fin de l'année.
Du côté de Montpellier, c'est ça.
Du côté de Montpellier, exactement. On voudrait passer à 60 pour pouvoir vraiment accélérer. Là, on pense qu'il n'y a plus vraiment le temps d'attendre que la situation change. On est dans une urgence climatique grave. On a besoin de mettre au point ces technologies le plus vite possible. Donc le but du jeu, les carburants, comme je vous dis, il y a un long temps de développement technique. 2030-2035, ce serait le plus tôt pour nous. Donc il faut qu'on démarre le plus vite possible maintenant pour que ça soit prêt ce jour-là. Mais on a beaucoup d'autres technologies qu'on développe en fait. Si on travaille à fabriquer des carburants pas chers, on sait aussi fabriquer n'importe quelle autre molécule pas chère d'intérêt qui, elle, peut se vendre plus rapidement. Donc voilà, je vous ai amené par exemple des pigments d'algues. Oui. Donc, c'est des algues bleues sur lesquelles on travaille. Donc,
alors,
dedans,
est-ce qu'on les voit elle est en face de vous.
Vous pouvez nous les
donner. On va les voir. Il y en a une bleue et une verte.
Donc en fait, ça c'est l'algue. C'est une algue bleue. Donc dedans, il y a de la chlorophylle et des pigments bleus. C'est ça pour ça qu'on l'appelle l'algue bleue.
D'accord.
Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'en travaillant sur les biocarburants, on travaille aussi sur la purification d'autres pigments. Donc ce que vous voyez dans le truc bleu là, c'est le pigment bleu qu'on arrive à extraire de ces algues-là. Et ce pigment a beaucoup d'applications dans la recherche, notamment. Donc ça fait partie des premiers produits qu'on développe.
Les algues, Elisabeth, ça a énormément d'applications.
Ah ouais, mais alors on peut les manger. D'ailleurs, il y a une filiale de ENAF qui commercialise la marque Algae, c'est tout ce qui est alimentaire. Les algues déclinées dans des cookies, dans des assaisonnements de salade. Mais on la trouve aussi dans les cosmétiques. Par exemple, vous avez un entrepreneur dans le Calvados qui est basé à Douvres-la-Délivrande, qui a fondé sa start-up, le Marsoin, de la cosmétique pour hommes à base d'algues bretonnes. Il vient de lancer son premier baume. Mais c'est aussi utilisé dans l'alimentation animale, pour que les animaux puissent enfin se passer d'antibiotiques, de pesticides. Il y a une entreprise qui s'appelle Holmix, qui a ouvert notamment à Pontivy une boucherie où là-bas, on ne vend que des viandes d'éleveurs qui n'utilisent que ces compléments alimentaires à base d'algues. Et puis, il y a une étude récente qui a démontré la capacité d'un extrait d'algues marines qui module la réponse immunitaire de poulet. L'usage des algues permet d'activer la réponse immunitaire et donc de renforcer les défenses naturelles des animaux. Elle a plein de vertus.
Et on va continuer à en découvrir d'autres, des vertus de ces ressources qui nous viennent de la mer dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et vous allez voir que les coquilles d'huîtres peuvent aussi être un atout. Aujourd'hui, elles se transforment et elles finissent dans la cosmétique et même parfois dans les imprimantes 3D. A tout de suite. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et à l'occasion de la journée européenne de la mer, hein, c'est aujourd'hui, nous découvrons aujourd'hui, grâce à vos invités Raphaël, les innovations pour exploiter les richesses de la mer durablement. Si vous avez des questions, si ces innovations vous interpellent, eh bien venez nous le dire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard d'Europe 1.
Et vous appelez maintenant pour être tout à l'heure avec nous en direct sur Europe 1. Vous avez peut-être déjà vous aussi jeté des coquilles d'huîtres à la poubelle après un repas de fête. Eh bien, chez les ostréiculteurs, ce sont des tonnes et des tonnes de coquilles qui sont ainsi traitées. Mais depuis une quinzaine d'années maintenant, une autre solution existe. Bonjour Martine Lelu.
Bonjour.
Merci Raphaël d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez l'usine de Kervé-les-Rhins depuis 20 ans, hein, c'est bien ça. Et c'est une usine que votre père dirigeait avant vous.
Voilà, c'est une usine. J'ai pris la suite
la
de
relève.
Mon père, la relève, il y a une vingtaine d'années, en investissant un peu d'argent pour moderniser l'équipement.
Et alors, vous avez eu l'idée de transformer les coquilles d'huîtres. Racontez-moi comment vous vient cette idée. Vous aviez à côté justement des parcs, des ostréiculteurs.
Oui. Oui, l'Orient, c'est on est dans le département du Morbihan. Donc tant en termes de surface que de production, le Morbihan est l'un des premiers producteurs d'huîtres au niveau national. Et malheureusement, cette activité génère des coproduits en quantité plus ou moins importante selon les années. Il y a une mortalité de l'huître qui est liée aux conditions climatiques plus ou moins favorables. Il y a des prédateurs naturels comme la dorade qui mange l'huître, ça je ne savais pas. Il y a des bigorneaux perceurs. Il y a donc une certaine quantité d'huître qui n'arrive pas à maturité et dont l'ostréiculteur doit gérer, récupérer, récolter et ne sait qu'en faire.
Mais alors, vous êtes pharmacienne de formation.
Oui.
Comment vous vous dites, je vais prendre ces coquilles et en faire un produit ?
Bah, nous avons eu l'idée de tirer vers le haut, je veux dire, de partir d'un coproduit pas très joli,
alors,
mais qui a une histoire.
Quand vous dites coproduit, c'est-à-dire la coquille.
C'est ce que je reçois chez moi, c'est-à-dire ce sont les invendus, ce sont des huîtres issues du nettoyage de parc. Mmh. Donc je vais rechercher tout ça par camion de 25-30 tonnes chez les ostréiculteurs. Et vous avez à côté de vous ce que je reçois chez moi et qui est traité. Donc c'est un mélange de plastique.
De
gravats, il y a des coquilles d'huîtres. Donc tout ça, ça arrive chez moi et on les trie. Pour séparer donc vraiment la partie huître de la partie déchets qu'on trouve en mer, hein. Sache plastique, filets de pêche, acier, python, enfin je trouve de tout, hein. Donc il y a vraiment un énorme travail qui est pas très, enfin qui c'est pas de l'high tech, hein.
Ouais, bah c'est du travail.
Voilà,
c'est du travail. Il faut le faire,
oui.
Il faut que quelqu'un le fasse.
Oui.
Une fois que vous avez fait ce tri, qu'est-ce que vous faites avec cette matière là? Vous allez la broyer pour avoir une
oui.
poudre ?
Oui, alors la coquille, ensuite, après cette opération de tri, subit un certain nombre d'étapes physiques, broyage, concassage, séchage, calibrage, et on arrive à fabriquer donc, à partir donc, du déchet vraiment une poudre très fine, très pure, qui est un produit, je dirais, technique.
Ouais, on dirait de la farine, hein. Ça
oui.
ressemble à de la farine, effectivement.
Mais notre objectif, c'était à partir d'un déchet, fabriquer un produit technique qui répond à des normes, une spécification, qui est une autre matière, une nouvelle matière.
Alors, cette nouvelle matière qu'on a là avec nous, sur Europe1.fr, vous pouvez la voir, elle devient quoi ? Vous avez eu l'idée d'abord de la proposer pour faire de la peinture de route, les fameuses
oui,
bandes blanches qu'on a sur la route.
Les fameuses bandes blanches. Donc ça, c'est une rencontre extraordinaire qui date de 2007. Donc j'ai rencontré un homme de la société Bouygues Colas qui vraiment mm-hmm. voulait...
Aller vers quelque chose de plus vertueux.
Ouais, voilà. Donc on s'est tout de suite tous les deux bien entendus. Et le premier marché, ça a été donc d'utiliser de la poudre d'huître dans les peintures qu'on met pour faire les bandes blanches.
Vous ne vous arrêtez pas là, parce que j'ai à la main un petit savon qui s'appelle poudre d'océan et qu'on peut utiliser comme exfoliant. Ça aussi, c'est
oui.
à base de coquilles d'huître.
Oui, ça aussi, il y a de la coquille d'huître. Et il y a aussi tout le marché de la thalassothérapie qui utilise l'ingrédient poudre d'huître pour... exfolier, pour les bains d'algues, etc., pour madame, messieurs. Ça, c'est la partie cosmétique.
Et ça sent pas la mer, hein, je tiens à le préciser. Hein, parce qu'on peut croire que le savon sent la mer. Pas du tout. Hein.
Et puis, on a. Alors, vous nous avez amené beaucoup de choses. Il y a une tasse en plastique, enfin, voilà. Qui ressemble à du plastique en tout cas, mais ça n'en est pas. Il y a des lunettes, il y a également ce câble. Je parlais tout à l'heure de l'impression en 3D.
Oui, c'est le filament qui est utilisé donc pour l'impression 3D qui est la technologie d'avenir. Hein. L'impression 3D va nous permettre de fabriquer des objets. Mais ces objets. Vous êtes magnifique.
Ouais, elle a mis les lunettes. Ça sont super. Ouais.
Les lunettes en bioplastique avec de la poudre de coquille d'huître. Oui.
Que dit notre coach de cette aventure géniale?
Le coach est impressionné parce qu'autrefois, moi, je connaissais l'usage des coquilles d'huître pour les poules, parce qu'elles ont besoin de calcaire et donc ça leur est utile pour leur développement.
Qui est toujours là.
Qui est toujours là. Oui, on prive pas les poules. Non, rassurez-moi des coquilles d'huître. Mais là, vous montrez qu'un déchet qui jusqu'à présent n'était que peu valorisé peut être d'une grande valeur ajoutée et lancer une nouvelle filière.
Oui.
Là, on est sur une filière d'avenir.
Ah oui, on est sur l'économie circulaire, le développement durable. Parce que la poudre de coquille d'huître va remplacer toutes ces roches qu'on extrait de carrières. Donc, on continue à creuser notre mer nourricière terre, alors qu'il y a des produits substituables, renouvelables, qui pourraient remplacer toutes ces carrières.
Et on va voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On reste ensemble et on continue à parler de la mer et de ses richesses aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pourquoi ne pas faire du verre, de déchets de poissons et de coquillages? Eh bien, vous allez voir que c'est l'idée lancée justement par Lucille Viau. À tout de suite.
Aujourd'hui, c'est la journée européenne de la mer. Du coup, Raphaël Duchemin, vous nous proposez jusqu'à 14h de découvrir les innovations pour exploiter les richesses de la mer durablement. Et on en fabrique des choses avec les produits de la mer. Vous pouvez découvrir en nous suivant en vidéo sur europe1.fr. Et vous pouvez également réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard.
Et vous allez voir qu'on peut utiliser véritablement les déchets de la mer pour qu'ils deviennent des objets du quotidien. Bonjour Lucille Viau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez décidé, vous, de vous spécialiser dans la formulation de matériaux à partir de ressources naturelles. Qu'est-ce qui vous inspire à ce moment-là? Pourquoi cette envie-là? Parce que vous avez fait l'école Boulle, donc vous avez une partie artistique.
Oui, une formation en design d'objets, en fait. Donc je m'intéresse d'abord à la démarche du designer et je me questionne sur l'utilisation des matériaux pour la création d'objets. Et je décide à ce moment-là, pour mon projet de diplôme, de partir de la matière pour arriver vers l'objet et pas l'inverse. Pas dessiner un objet et ensuite aller chercher un matériau pour le fabriquer. Donc je m'intéresse vraiment à la matière première et à la valorisation des coproduits marins dans un premier temps.
Donc quel est le premier coproduit qui vous vient en tête?
Alors tous les coproduits issus de la transformation alimentaire en Bretagne, les coquilles d'huîtres évidemment, les algues, les arêtes de poissons, les peaux de poissons.
Les arêtes de poissons et les peaux de poissons.
Et les carapaces de crustacés.
Bon. Une fois que vous avez rassemblé tout ça, vous vous dites, tiens, ça je peux l'utiliser de telle manière et ça autrement. Il y a une spécificité pour chaque déchet?
Tout à fait. Donc j'entame une recherche puisque à ce moment-là, je n'y connais absolument rien en chimie des matériaux. Donc c'est vraiment de l'expérimentation à partir de ces poudres puisque je les travaille sous forme de poudre.
Là, vous travaillez avec l'Université de Lorient à ce moment-là?
Dans un premier temps avec IDEMER, qui est un centre de valorisation des coproduits marins qui est basé à Lorient. Et puis assez rapidement avec Martine Lelu pour la ressource en coquillage. Donc j'étudie ces matières, ces molécules, et je me rends compte assez rapidement qu'en fait elles peuvent permettre de substituer les matières standards qu'on utilise dans la fabrication d'autres matériaux, y compris la céramique et le verre.
Donc vous commencez à créer des objets?
Oui.
Quels sont ces objets? On les a ici, on a des verres.
Oui.
C'est votre premier projet?
Alors, ces objets-là sont les premiers. C'est 3 ans de recherche avant d'arriver à la première recette de verre qui est travaillable correctement par des artisans verriers. Donc, une fois le matériau créé, ça se passe en collaboration avec des artisans qui soufflent les pièces. Et puis, je développe des objets utilitaires pour la maison.
Et vous avez aussi créé du plâtre.
Oui.
Alors là, c'est là qu'intervient la peau et l'arête de poisson.
C'est la genèse du projet vraiment, puisque je commence par développer une pâte à partir des poudres que je mélange à de l'eau. Je le mets en forme par moulage et en faisant des essais de cuisson sur ce matériau-là, le plâtre de mer, j'arrive rapidement à la piste de la céramique et à la piste du verre. Ça a été vraiment le point de départ en fait dans la recherche.
Vous êtes impressionné, Gilles?
Oui. Et aujourd'hui, ces productions, elles sont très artisanales. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans ces nouveaux matériaux que vous mettez au point, que vous utilisez, il y a peut-être un vivier pour remplacer le plastique ou d'autres types de verre? on peut aller vers une industrialisation de la chose, même si ce n'est pas votre objectif.
Ce n'est pas du tout mon objectif. L'objectif, c'est vraiment de rester dans une production artisanale, puisque là, le geste du verrier est irremplaçable. Donc, ce n'est pas voué à devenir industriel. Par contre, être applicable à toutes les régions, à tous les coproduits, et vraiment dupliquer la démarche, ça, oui, on peut le faire absolument partout.
Vous avez commencé justement à faire cette démarche-là, à aller voir les autres régions. Jérémy qui est à côté de vous et de Montpellier, donc voilà, il y a la mer aussi, hein. Oui. il y a matière à faire quelque chose avec ces déchets.
Tout à fait. Je travaille sur différents types de territoires avec des ressources maritimes ou dans les terres. Donc il y a des recettes de verre terre-mer, il y a des recettes terre, des recettes mer. En ce moment, dans l'Aveyron, à partir d'autres types de ressources, là c'est plus du coquillage, c'est de la coquille d'escargot, mais on est assez proche.
C'est vrai qu'il y a pas mal d'utilisations hein, quand on recherche. C'est un peu ce que vous avez fait, Elisabeth, oui. Et vous avez trouvé d'autres utilisations justement pour les coquillages.
Alors oui, pour les coquillages, pour le poisson aussi, j'ai trouvé Arcachon fémère.fr.
Oui. Cœur de poisson. Oui.
Voilà, qui a ouvert une tannerie de poissons, de peau de poisson à Arcachon, une tannerie qui fait des sacs et des chaussures. Il y a un projet qui a été initié à l'université de Caen pour concevoir un béton à partir de coquilles d'huîtres et de moules, parce que voilà, face à la problématique actuelle hein, de gestion, c'est ce que vous venez de dire, hein, et de valorisation des déchets des coquillages. C'est un projet qui vient d'être repris par Alkern. Cette entreprise est spécialisée dans le béton. Ils travaillent en partenariat notamment avec la mairie de Trouville pour que les coquillages se transforment en pavés. Le coquillage, une fois concassé, va intégrer le béton qui formera donc des pavés assez particuliers. Et c'est une technique unique de béton-coquillage qui intègre des coquilles Saint-Jacques et qui sont très très solides. Donc on sait que les coquilles Saint-Jacques sont hyper solides.
Voilà. Vous avez projet aussi démarré. Oui.
Des lunettes, hein. en plus de votre marque, madame. Il y a Friendly Frenchie qui fabrique des montures de lunettes à partir d'huile végétale et de coquilles d'huîtres et de coquilles Saint-Jacques.
Votre projet, il a démarré en 2014.
Oui.
Donc là, vous pensez qu'on a encore d'autres prolongements à venir ou vous pensez être arrivé au point qui vous intéressait?
En tout cas, sur la démarche, au point qui m'intéresse, oui. Après, c'est applicable à l'infini et c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Travailler au Pôle Nord avec un artiste avec qui je collabore, Antonin Ponce-Bralet. Dans l'Aveyron, on part en Lorraine en septembre aussi, tous les deux, pour développer un verre à partir de ressources locales. Là, c'est vraiment la démarche est au point, la logistique est au point, c'est applicable à l'infini.
Gilles ?
Et alors, est-ce que vous tâchez de convaincre vos camarades de l'école Boulle et d'autres écoles de design qu'il faut utiliser ces nouveaux matériaux plutôt que le plastique, par exemple ?
Ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de projets de diplôme, notamment sur la valorisation des déchets, puisque on a plus d'autre choix, en fait, aujourd'hui. Donc,
le plastique, c'est fini ? C'est une nouvelle civilisation qui s'ouvre ?
Oui, je pense qu'on voit vraiment une évolution. En tout cas, dans la création, c'est évident que il y a de la sensibilisation et puis tous les créateurs travaillent dessus. Ouais.
On reste ensemble, on continue à parler de ces richesses de la mer que vous transformez. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, 39-21 bien sûr. Et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge. Vos questions à nos invités.
Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mai et c'est la journée européenne de la mer. Et grâce à tout ce qu'il y a dans la mer, aujourd'hui on fabrique beaucoup de choses. Et ces objets, on les découvre grâce à vos invités, Raphaël Duchemin. Les innovations pour exploiter les richesses de la mer durablement, la France bouge. Vous pouvez poser vos questions aux débattants sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 39-21.
Ah oui, les innovations pour exploiter les richesses de la mer durablement, on en parle avec Jérémy Duteil, cofondateur de Neomeris, qui est un laboratoire de recherche et aussi une entreprise qui développe de nouvelles technologie de biocarburant à base de microalgues. Martine Lelu, dirigeante de l'usine de Kervelrin, fabrication de poudre de coquilles d'huîtres pour de multiples applications. On les a vues, on a ici par exemple les lunettes ou même la tasse et bien d'autres choses. Et puis Lucilvio, designer et inventrice du verre marin Ostraco, verre marin à base de déchets de poissons et de coquillages, mais aussi le fameux plâtre hein, que vous utilisez pour beaucoup d'autres utilisations. Aujourd'hui, c'est Gilles Van Der Potten qui est notre coach, Elisabeth est avec moi et on a des questions, Anissa, sur Twitter.
Oui, on a des réactions sur Twitter. Il y a Nordal déjà qui vous pose une question à tous les trois. Quelles sont les innovations en matière de réduction de la faim dans le monde avec les algues ou les produits de la mer éventuellement ?
Est-ce qu'il y a des... Alors justement, les algues peut-être, Jérémy, vous avez peut-être une idée de réponse pour Nordal ?
Les algues, c'est la source de protéines la plus facile à obtenir. aujourd'hui. Voilà, ça, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour faire des protéines. Il y a donc de l'avenir là-dedans. Après, il y a, en Occident, on a encore un petit frein avec le goût et l'odeur des micro-algues et des algues. Mais ça a tendance à se faire
bien,
de plus
en Asie. Oui. En Asie, elles sont très
répandues,
utilisées.
Oui, au Japon, surtout,
au Japon effectivement. Donc, c'est effectivement une des ressources qui peut permettre de réduire cette faim dans le monde. On a un autre message.
Oui, l'AXAP, toujours avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. Nous sommes un des pays d'Europe avec le plus de zones côtières. Où sont les fermes marémotrices? Une marée toutes les 6 heures. Ça, c'est la question de l'AXAP.
Alors, qui a une réponse? Martine Lelu, est-ce que vous avez, vous, une idée de pourquoi, manifestement, il trouve qu'il n'y en a pas suffisamment sur le littoral, notre ami?
Ah oui, y a des projets. Il y a des projets qui vont aboutir. Avec des collectivités, des communautés de communes, avec des professionnels de la mer, les ostréiculteurs, tout ça est en train de s'organiser sur d'autres régions. Faut pas faire n'importe quoi, faut pas aller trop vite, faut mettre au cœur du système, au cœur du projet, l'ostréiculteur. Lui, il faut pas l'oublier. Il ne faut pas faire de greenwashing. Prenons notre temps, trouvons les partenaires. Et bien entendu, le recyclage ne va faire que croître dans les années à venir.
J'en profite pour préciser à la personne qui nous a envoyé un message sur Twitter que justement, on en parlera de ces fermes pendant le World Impact Summit, puisque nous sommes ce vendredi à Bordeaux, avec Elisabeth, en direct de Bordeaux, avec justement des solutions pour faire bouger la planète en matière d'écologie. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jérémy?
Donc, sur l'énergie marémotrice, c'est un peu pareil que les hydroliennes, en fait. C'est des technologies qui marchent sur le papier, mais actuellement, les revendeurs d'électricité ne sont pas prêts à l'acheter au prix que ça vaut. On a eu un scandale par rapport à ça sur les hydroliennes, où on a inauguré une usine et puis on l'a fermée 3 semaines après. Oui, c'est une histoire. En fait, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer le prix de l'énergie écologique, en fait.
C'est ça, voilà. Le frein. Je vous entendais tout à l'heure dire qu'il y a toujours ce problème de coût. Quand on nous parle coût, on est dans un faux débat.
On a été shooté pendant des décennies à l'illusion de l'énergie pas chère avec le pétrole, le charbon, etc. C'est une illusion. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on repense le modèle énergétique mondial et le prix que ça vaut. Ça. En fait, ça vaut le prix que ça coûte à extraire le pétrole, mais ça coûte aussi tous les dégâts qu'il y a derrière. Mm. Voilà, donc c'est que comme ça qu'on arrivera à changer les choses.
C'est la même chose pour vous, Lucille. Combien ça coûte d'ailleurs cette matière que vous mettez en œuvre?
C'est de la verrerie d'art, donc il y a un artisan derrière qui souffle les pièces, donc ça va d'une quarantaine d'euros à 500 euros pour les plus grosses pièces.
Mais vous, la matière que vous vendez, la matière que vous fabriquez, la matière initiale?
Alors moi, je ne suis pas revendeur de mon matériau, c'est vraiment, je vais jusqu'au bout, je propose des applications avec ma matière. Après, elle coûte 40 euros au kilo pour avoir un ordre de prix, c'est 40 fois plus cher qu'un verre standard.
Gilles?
Est-ce que vous pensez que la France a un rôle à jouer, sachant qu'on est la deuxième puissance maritime mondiale en termes de côtes, on est bien servi partout dans le monde. Est-ce qu'on investit assez aujourd'hui ou est-ce qu'il faut un grand plan pour la mer? Est-ce que c'est l'oublier de la transition écologique? Et est-ce qu'au niveau européen ou français, on a besoin de moyens là? Attendez quelque chose?
Vous avez dit les bonnes choses. Sur la mer, on a des choses à faire, on devrait. Ce qui ne se fait pas assez, c'est l'investissement dans les nouvelles idées. Et c'est surtout la possibilité de leur permettre d'émerger derrière. Autant on soutient bien les start-up un petit peu dans l'innovation, il y a des aides fiscales, il y a plein de choses qui permettent aux entreprises de bien marcher en France plus qu'ailleurs. Mais après, c'est pour transformer l'essai, quoi. Une fois qu'on a un produit et qu'il faut le proposer, il y a des innovations à faire dans la tête des gens aussi, surtout.
Vous avez raison, il faut faire bouger les mentalités, ça commence par ça.
Sensibiliser.
Et nous laisser le temps, parce que vous avez vu, tous les trois, ça a pris des années d'investissement, de pas de salaire pendant de nombreuses années, on l'a fait tous les trois. Et des plans, il y en a plein. Il y a plein d'études faites aussi dans tous les sens.
Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi parce que les choses sont en train de changer.
C'est ça.
Grâce à vous, grâce à des gens comme vous.
C'est ça.
Merci beaucoup d'être venu nous parler innovation grâce à ces ressources de la mer aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous dans un instant. Vous allez découvrir une entreprise qui date de 1973. Et en 30 ans, elle est devenue numéro 1 mondial. C'est Lectra, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1. Raphaël Duchemin, chaque jour vous nous présentez une entreprise française qui va bien. Aujourd'hui, elle est de renommée mondiale.
Oui, cette entreprise, c'est Lectra. Bonjour Daniel Harari.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de ce groupe, effectivement, de renommée mondiale. Et votre histoire, alors, elle est assez étonnante. Vous, vous êtes né en Égypte et vos parents ont tout laissé derrière eux hein, pour venir s'installer ici en France. Vous avez fait des grandes écoles. Vous rejoignez votre frère, on est, je crois, en 1986, dans une société de capital risque. Et il a investi à l'époque dans Lectra, qui a été créé en 1973. C'est là que commence, on va dire, l'aventure avec Lectra.
Absolument. Mon frère André a donc participé à l'aventure de Lectra depuis le départ. La société avait 5 personnes. Ne faisait pas encore de chiffre d'affaires pratiquement et il a bâti l'entreprise avec les fondateurs jusqu'à son introduction en bourse en 1987.
Ouais, les jumeaux Etchepar et en 90, cette société fait peut-être de mauvais choix, elle perd de l'argent. C'est à ce moment-là que vous décidez d'entrer un peu plus dans l'aventure ?
Voilà, alors jusqu'en 87, tout se passe bien, l'entreprise rentre en bourse, c'est un succès fantastique et puis immédiatement après, la bourse est déçue. Les fondateurs ont annoncé des produits trop tôt, ils n'étaient pas prêts. C'est en fait une crise de croissance assez classique. L'entreprise est rentrée dans une fuite en avant, a commencé à perdre beaucoup d'argent. Et quand je reprends l'entreprise en 1991, on perd 1 000 000 de francs par jour.
Parce qu'au départ, vous n'êtes qu'investisseur, mais vous décidez de changer de casquette parce que cette entreprise, vous y êtes attaché et vous pensez qu'il y a un gros potentiel.
Absolument, on a décidé de changer de vie, de changer de métier en 24 heures. On est passé de venture capitaliste à industriel en quelque sorte. Et on a décidé progressivement au cours des années de tout réinvestir sur Lectra, dont on a pris à l'époque la majorité avec les actionnaires qui étaient à nos côtés dans notre société de capital risque.
Alors vous allez aussi changer de stratégie, vous différenciez complètement de ce qu'était Lectra au départ. Vous dites on a décidé de revoir 100% de notre offre produit. Pourquoi ?
Alors, l'entreprise avait une très bonne réputation. On avait des clients extraordinaires. L'entreprise avait démarré avec des clients comme Saint-Laurent, Chanel, Dior. Et par contre, les produits avaient mal vieilli au sens où la technologie était un peu dépassée. On voyait les choses par l'aspect technique, pas d'esthétique. Alors, on était dans le monde de la mode, donc très sensible à cela. Donc, on décide de revoir tous nos logiciels, toutes nos machines en deux temps. Et on sort en 1993 une nouvelle génération de machines de coupe qui nous rendra célèbres et qui nous amènera au poste de numéro 1 mondial. Et puis également, on revoit 100% de notre offre logicielle pour le développement des collections de mode, notamment en 1996.
Et alors en 2005, vous dites, on se rend compte que tous nos fabricants, tous nos concurrents fabriquent en Chine. Vous n'avez pas du tout eu envie de partir. Vous avez tout gardé ici en France. C'est-à-dire que tout se fait en France. Toute la production est 100% française.
Alors, c'était une décision difficile puisque tous nos concurrents sont partis fabriquer en Chine, voire même ont déplacé leur centre de recherche en Chine. On a fait une étude qui a duré plusieurs mois sur la possibilité d'ouvrir un centre en Chine. Et puis, on a décidé de rester en France, d'investir sur l'innovation.
Ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il y a même des actionnaires qui ne vous ont pas suivi.
Une grande partie de nos actionnaires ont décidé de vendre leurs actions. Beaucoup de managers de Lectra étaient totalement opposés à cette stratégie. Beaucoup pensaient qu'elle serait suicidaire et en fait, on est sorti renforcé.
Oui, parce qu'aujourd'hui, vous dites, on arrive à fabriquer en France pour 20% moins cher que nos concurrents en Chine.
Absolument, parce qu'on a tout misé sur l'innovation, sur le fait d'industrialiser tous nos process. Et de ce fait-là, on est resté en France, on est monté en gamme. On a produit des offres premium pour nos clients dans l'automobile, dans la mode, dans l'ameublement. Et puis, on a réussi à baisser nos prix de revient tout en montant nos prix de vente.
Gilles ?
C'est assez formidable de constater que vous produisez 100% de vos machines en France, alors que vous n'y réalisez, vous me disiez, que 5% du chiffre d'affaires. C'est donc la preuve que, contre les discours déclinistes, l'industrie a de l'avenir dans notre pays.
Alors, surtout dans la technologie, parce qu'en fait, en France, on trouve d'excellents ingénieurs. Lorsqu'on fait appel à de la main-d'œuvre qualifiée, en France, les salaires sont très raisonnables, contrairement à de la main-d'œuvre non qualifiée. Nos clients souffrent, mais nous, on ne souffre pas de ça. On trouve d'excellents ingénieurs dans la région de Bordeaux, en plus. Donc, ce n'est pas si difficile que ça.
L'automobile, c'est 40% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui.
Oui.
La mode, toujours là, bien sûr. Et puis l'ameublement.
Alors, si on simplifie, on pourrait dire qu'un vêtement sur quatre dans le monde a été dessiné avec nos logiciels. que près d'un intérieur de voiture sur deux est fabriqué avec nos systèmes et deux airbags sur trois dans le monde sont découpés sur nos machines de coupe.
La suite, c'est quoi pour Lectra et pour vous ?
Alors, la suite, c'est l'industrie 4.0, la quatrième révolution industrielle. Après la vapeur, l'électricité, l'informatique, ce sont des machines intelligentes, connectées aux consommateurs et connectées au centre de développement qui permettent, par exemple, de faire des vêtements à la demande sur mesure.
C'est Lectra, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler. Je précise que votre reprise de Lectra est devenue un cas d'école qui est étudié aujourd'hui dans les business schools. C'est dire si c'est un succès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Un pressing écolo juste à côté de chez vous. Oui, c'est possible. La solution s'appelle les ratons laveurs.
La France bouge sur Europe 1, tous les jours entre 13h et 14h et tous les jours, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Aujourd'hui, on va laver notre linge sale en famille.
Exactement, à l'occasion du salon Jet Expo, le salon des professions de l'entretien textile qui a lieu en ce moment à Paris, Porte de Versailles. La solution, Elisabeth, c'est le pressing 100% écolo et ça s'appelle les ratons laveurs.
Oui, les ratons laveurs, c'est un pressing qui est situé à Paris, dans le 17e arrondissement, mais c'est aussi un service de livraison de votre linge propre à domicile. Et c'est un pressing un peu particulier puisqu'il propose de nettoyer vos vêtements de manière 100% écologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un nettoyage garanti sans perchloroéthylène, vous savez. On s'est entraîné plein de fois pour le dire, mais enfin vous savez, sans ce composé ultra chimique, ultra cancérigène que l'on retrouve dans énormément de pressing, qui va d'ailleurs être interdit d'ici 2022. Et les ratons laveurs utilisent aussi du savon de Marseille pour nettoyer les vêtements. Et les vêtements sont livrés exclusivement par voiture électrique. Bonjour Mickaël Ladire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur des ratons laveurs. Alors vous, à l'origine, vous n'êtes pas du tout dans ce milieu. Et c'est vraiment, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, c'est vraiment né d'un besoin, cette idée de départ de pressing.
Alors oui, tout à fait. Effectivement, moi, je ne suis pas du tout donc du domaine du pressing. Et donc l'idée m'est venue puisqu'en fait j'étais moi aussi donc en difficulté puisque je suis en fait ingénieur commercial. Et donc j'avais la problématique de récupérer mon linge en fait à des horaires qui étaient en fait pas du tout adaptés
à vos contraintes à vous.
Exactement. Donc voilà, elle est venue m'aider.
Donc l'idée est venue et dès le début de votre aventure, vous vouliez casser les codes du pressing. Que souhaitiez-vous changer précisément au-delà des horaires ?
Alors, moi dans un premier temps, j'ai toujours trouvé que le pressing avait cette image un petit peu vieillissante avec... les gens n'avaient pas forcément envie de venir récupérer leur linge. Et je me suis dit qu'il fallait apporter cette touche écologique et surtout donner envie aux gens de venir récupérer leur linge et que ça ne soit plus une corvée en fait.
Et alors, quelle est la particularité de votre pressing ?
Alors la grande particularité, c'est déjà on a donc une boutique qui est quand même... plutôt assez bien habillé, on s'y sent bien. Je ne sais pas si... D'ailleurs, je vous y invite par la suite. Et donc, l'idée, c'est effectivement de proposer un endroit qui soit accueillant, où le client a vraiment la possibilité de poser les questions, puisque maintenant, on a donc des vêtements qui sont de plus en plus difficiles, avec des matières, des bimatières.
Des nouvelles matières.
Des nouvelles matières, effectivement. Donc, l'idée, c'est aussi d'apporter un conseil à nos clients, pour le nettoyage de leurs vêtements.
Donc, vous nettoyez comment ? Juste, vous utilisez du savon de Marseille, c'est ça ? Quoi d'autre ?
Alors, le savon de Marseille, en fait, est utilisé pour les chemises, intégralement donc pour le coton. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur le perchloroéthylène.
Bravo.
Donc, l'idée, c'était en fait de partir sur une solution d'aqua-nettoyage. Donc, l'aqua-nettoyage, c'est quoi ? C'est en fait un principe à l'eau. Donc, on peut nettoyer donc, les costumes, on peut nettoyer les robes, on peut nettoyer... pas mal de matière et on a sincèrement un résultat qui est surtout au niveau des couleurs.
Gilles ?
J'ai interrogé mon pressing et il m'a dit qu'il utilisait du silicone liquide. Donc apparemment, c'est beaucoup moins dangereux que le perchloroéthylène. Mais vous allez encore plus loin. Le savon de Marseille, c'est ce qu'il y a de plus écolo qu'on puisse trouver ?
Alors, écologique, oui. C'est-à-dire que le savon de Marseille est utilisé principalement pour le pré-brossage. Pour le nettoyage, nous avons en fait des savons en fait, qui sont donc utilisés pour spécifiquement des matières. Ça veut dire qu'on a un savon qui est spécifique au coton, un savon qui est spécifique...
Chaque savon est adapté à la matière.
Et ça marche avec des pompes.
Avec des pompes. Combien de clients aujourd'hui ? Combien de... Une seule boutique hein, pour l'instant ?
Alors, actuellement, une seule boutique. Nous avons la chance de travailler donc, avec pas mal d'entreprises professionnelles.
Issues de la mode, oui.
Issues de la mode.
Vous souhaitez en ouvrir d'autres ? Pourquoi pas créer des franchises comme votre concurrent français Sequoia ?
Oui, ben, écoutez, l'idée, sincèrement, l'idée est en cours puisqu'on y travaille avec les associés.
Ça s'appelle les ratons laveurs. C'est le pressing écolo dont on a choisi de vous parler aujourd'hui. Et c'est la solution sur Europe 1. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Gilles qui était notre coach. Nous, on se donne rendez-vous
à demain.